Glorieux Jésus, glorieux Jésus, c'est encore un honneur de venir en ta présence et d'invoquer ce merveilleux nom qui est Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui est venu pour nous sauver, pour sauver nos âmes, pour nous racheter de la mort, de l'enfer et nous faire grâce en nous donnant la vie éternelle. Oui Seigneur, sois avec nous pendant cette soirée comme tu l'as promis et nous le croyons que tu es déjà parmi nous, au milieu de nous, selon ta promesse, selon ta précieuse parole. Et nous attendons que tu nous donnes encore de la nourriture. Nous avons faim et soif de ta présence, de ta bénédiction, faim de ta parole, faim et soif d'être continuellement abreuvé de toi. Et nous croyons qu'encore ce soir, tu vas le faire. Visite nos vies. Bénis ceux qui écoutent, bénis ceux qui sont à la maison. Le frère, la famille, tu t'occupes de tout le monde et tu n'oublies personne en arrière. Voilà pourquoi nous avons la confiance que tu as commencé une œuvre au milieu de nous, dans cette assemblée, dans ton épouse, et que tu vas apporter tout à bonne fin. Bénis nos vies, car nous dépendons de toi. Merci pour cette soirée. Ouvre nos cœurs, l'entendement, afin que nous puissions te comprendre toutes les paroles que tu vas nous donner. Et les sceller dans nos cœurs. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Tu vois que nous sommes un peu fatigués. Nous avons peut-être des problèmes, mais tu nous donnes le repos. Tu es celui qui nous donne la fraîcheur dans nos cœurs, dans nos esprits. Oui, Seigneur, nous nous reposons en toi. Et je crois que tu as une parole pour chacun d'entre nous ce soir. Donne-nous selon les besoins de nos cœurs. Merci à toi, tout honneur, adoration. À toi tout remerciement, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Frère Jérémy n'est pas encore là. Voilà, les frères prennent les extraits de la circulaire des écrits du frère Franck, entre autres. Voilà, nous allons commencer où nous étions arrêtés à la page 41, la dernière fois en italien. On ne l'avait pas fini encore, mais il y a des choses très importantes que je devais encore lire. À page 40. Donc avec le symbole des clés. Le symbole des clés. Que Dieu bénisse sa parole. Donc un extrait du livre de Frère Franck avec les clés. Voilà, cette parole très importante, je vais lire Ce que le frère Franck a dit, a écrit, le symbole de la clé est très simple à comprendre. Celui qui a la clé d'une maison peut y entrer. Celui qui a la clé d'une voiture peut partir avec elle. Celui qui possède la clé du royaume des cieux a accès au royaume de Dieu. Par elle, il ouvre les choses qui jusque-là étaient fermées et il lui est révélé ce qui était caché. En vertu de l'appel divin et d'un établissement dans le service, les ordonnances valables pour toute la durée de l'Église du Nouveau Testament ont été établies ce jour-là de manière obligatoire et elles ne doivent pas être changées. Le Seigneur fit au conducteur spirituel de ce temps-là un sérieux reproche. Malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. Luc 11, 52. Se pourrait-il que nous trouvions aujourd'hui la même situation? Voilà, le frère Franco dit que sans cette entrée dans la parole de Dieu, sans pouvoir reconnaître qui est vraiment Jésus-Christ, sans révélation de Jésus-Christ, il est impossible d'ouvrir les portes. Voilà pourquoi le message est venu et a révélé vraiment qui était Jésus-Christ. Vous voyez, toutes les dénominations l'avaient oublié, confus, mais le Seigneur a fait grâce. Il nous a révélé vraiment, il a vraiment donné la clé pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment une bénédiction. Donc ceci, c'est un extrait du livre du frère Franck, hein. Le christianisme traditionnel, les prétentions infondées des papes. Donc, à travers, disons, cette reconnaissance, cette révélation, on peut entrer dans d'autres endroits des Écritures, dans d'autres lieux des Écritures, pour reconnaître, par exemple, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, sur le mariage et le divorce, sur le nom du Seigneur Jésus-Christ, reconnaître ce qui s'est passé dans les sept sceaux, reconnaître la prédestination, etc. Donc tout le royaume des cieux s'ouvre, et c'est ça la clé. Et sans cette clé, on aura des difficultés à entrer vraiment dans le royaume de Dieu. Vous voyez? On va lire encore ce passage. Donc Luc 11, 52, on va le relire. On va relire Luc 11, 52, ce que le frère Franck a écrit ici. Luc 11, 52. On le relit. Quand le Messie est venu, voilà pourquoi aujourd'hui les dénominations sont encore dehors. Voilà pourquoi parmi nous, comme on l'a lu, est-ce que frère Franck écrit, ne se pourrait-il Se pourrait-il que nous trouvions aujourd'hui la même situation dans l'Église, dans le message, dans la parole? C'est vrai, il y a encore beaucoup de personnes qui sont toujours dans l'obscurité. Ils lisent la lettre, comme les pharisiens et les sadducéens, ils savaient la lettre de la loi, mais ils n'étaient pas capables de la comprendre, de mettre tout en place, de mettre en action ces choses. C'est encore aujourd'hui dans le message. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y en a qui lisent les lettres. Donc, mettre en pratique, vraiment. Donc, ce n'est pas tout le monde qui soit vraiment entré dedans. Donc, c'est une grâce que Dieu nous donne. À vous a été donné. À vous a été donné le royaume. À vous a été donné de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, d'entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre, etc. Matthieu 13. Donc, c'est quelque chose de très important. Malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez... Comment on peut faire pour ôter, enlever la clé? Comment? C'est simplement quand on n'entre pas dans la révélation, dans l'obéissance à la parole de Dieu, que Dieu lui-même a restauré, que lui-même a donné. Donc ils enlèvent à nouveau la clé. Et aussi dans Daniel. Il est écrit, 12, la connaissance augmentera dans les derniers temps. La science, l'intelligence, la sagesse. Vous voyez? Bon, il s'agissait de cela. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de frères, je le dis vraiment au nom du Seigneur, et c'est vrai, si eux-mêmes Donc, disons, appelons ça des chefs. Disons des chefs. Ceux qui veulent une responsabilité ou qui se prennent une responsabilité, qui se restent une certaine, disons, ils sont restés d'une certaine position de responsabilité, eux-mêmes ne rentrent pas. Comment ils vont faire pour faire entrer les autres? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Lisons Jean 10. On peut le lire dans Jean 10. Jean 19. Il parle du bon pasteur. Matthieu, Jean, pardon, Jean 19. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, et il trouvera de la pâture. Vous voyez, la chose principale, c'est la parole de Dieu révélée dans ma vie. C'est-à-dire en mesure, hein, au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur révèle sa parole. Donc la pâture, c'est-à-dire il nous donne à manger, il nous donne de croître. C'est cela qui est glorieux. Parce que pas seulement il a marché le long du temps, mais aussi dans ces derniers temps. Voilà pourquoi il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. C'est vrai. Ensuite il dit, le portier ouvre. Donc je ne vais pas rentrer dans une prédication. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Et Dieu ouvre. Ouvre la parole. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais c'était Dieu dans la chair, mais le portier. Personne ne peut venir à moi. Dont l'autre verset important dans Jean 6 qu'on a lu. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire d'abord. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit qui ouvre la porte. C'est lui le portier. Et le bon pasteur entre. Le bon pasteur et les brebis le suivent. Ils suivent la parole, la révélation de Dieu. Donc cette chose-là, et aussi dans 1 Jean, donc on va pas lire, mais je le dis, que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ, des faux oints. Il faut faire attention, comme le frère Franck l'avait dit, et aussi Matthieu 24, 4. On peut lire aussi Matthieu 24, 4 aussi. Matthieu 24, verset 4. Souvent, le frère Franck s'y réfère parce que s'il n'y a pas la clé pour pouvoir entrer, alors les portes ne s'ouvrent pas. Maintenant, on continue et regardez comment frère Franck prend ce sujet de telle manière que même parmi les frères, s'il n'y a pas la porte, s'il n'y a pas la clé pour ouvrir la porte, ça va toujours être bloqué. Et en ce qui concerne, par exemple, le pardon des péchés, parce que en ce qui concerne les discussions entre les frères, vous voyez, cette chose est importante. Est important d'avoir la clé, de façon que la clé puisse ouvrir la porte et qui me donne une bonne prise de position, me fait comprendre les choses que je dois faire. Amen. Alléluia. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc Matthieu 24:4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis Christ. Donc il y a beaucoup qui ôtent la clé. Ils se mettent devant les gens pour empêcher ses frères d'entrer. Quand un don au ministère qui n'est pas sous l'onction de Dieu, s'il n'est pas sous la conduite du Saint-Esprit, veut se mettre devant les frères, ou même un ancien qui veut se mettre devant les frères, et que cet homme-là n'est pas soumis à l'autorité de la parole de Dieu, il empêche même les autres d'entrer. Juste? Donc c'est grave, ça devient grave. Voilà pourquoi il faut vraiment prier le Seigneur, qu'il nous donne la juste place, la juste position, la révélation juste, et de ne pas empêcher ceux qui doivent s'approcher et entrer, de pouvoir entrer. Autrement, on bloque les gens. La porte est fermée toujours. Et ça aussi, ça fait partie du reste. Aussi, Jean 14,6, personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Voilà aussi cette parole. Il est la porte. Donc c'est nécessaire d'avoir la révélation, n'est-ce pas? Et la révélation ne peut pas venir d'un homme, ça ne peut pas venir par un homme. C'est comme Jésus qui parlait avec Pierre quand dans Jean 16, quand il disait, quand il lui a répondu, Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ce sont des révélations directes, une pensée directe, où il n'y a pas la pollution des pensées de l'homme, il n'y a pas la pollution de l'intelligence des raisonnements, voyez. Il y a simplement la parole directe qui sort par la puissance du Saint-Esprit. Et ça s'appelle la révélation. Et puis là, c'est la porte qui s'ouvre et tu rentres directement. Quand le Seigneur parle, déjà dans l'Ancien Testament avec Rebecca et avec Abraham, quand il avait dit, vous posséderez la porte de vos ennemis. Frère Branham a fait aussi une prédication sur ce thème. Et c'est important ça aussi. Posséder la porte de l'ennemi. Connaître, savoir. Discerner la position pour pouvoir savoir comment faire pour sauver, pour aider les gens à être sauvés, pour dire les choses justes. Nous continuons la lecture. Donc toujours la lecture du christianisme traditionnel. Donc le frère Franck ajoute, frère Franco écrit. Donc des fois j'ai des pensées qui viennent et je les écris. Donc à travers la réflexion de l'esprit qui vient. Et j'ai écrit, ça comporte beaucoup de situations dans l'église de Christ. Donc posséder la clé de la porte, c'est quelque chose de glorieux. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Beaucoup sont appelés, peu sont des élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le salut, c'est général. Et que Dieu vraiment fasse grâce de pouvoir encore répandre jusqu'au dernier jour, qu'il ait vraiment le salut. Que des gens puissent vraiment se mettre à l'abri. Mais avoir la clé, c'est quelque chose de glorieux, que Dieu nous fasse grâce. En nous mettant vraiment devant le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que moi j'ai la clé? Est-ce que je l'ai reçue? Est-ce que tu me l'as donnée? On continue. Regardez comment la chose se développe. Donc, frère Franck écrit, ce que Jésus dit encore à Pierre dans ce contexte a été de même entièrement mal compris et faussement appliqué. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Ce que l'apôtre Pierre a déclaré avoir force de loi lors de la fondation de l'Église, c'est-à-dire la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, a été dit sous la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi la chose est valable aussi bien dans le ciel que sur la terre. C'est là la véritable signification des clés. 7. Voilà. C'est la démonstration. Frère Franco dit, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers sa créature, envers ses élus. Parce qu'il est venu pour nous. Il est venu pour ceux, il faut le dire peut-être, nous ne le savions pas. On était dans le péché, on était incrédules, on était loin de Dieu. On était des pécheurs, des blasphémateurs, tout ce que vous voulez. On était parmi ces gens. Mais avant que le monde soit, on était déjà écrit dans le livre de l'agneau. Afin qu'ils sachent qu'il y a un sauveur qui les avait déjà sauvés. Cette pleine autorité, donc frère Franck continue, cette pleine autorité ne fut cependant pas limitée à Pierre, qui parla le premier à l'heure de la naissance de l'Église du Nouveau Testament, et qui publia les ordonnances conformes à la doctrine. Mais cette autorité divine a été reportée sur toute l'Église. Donc, Frère Franco dit, Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il a donné cette tâche, cette directive, cette direction, ce travail à faire, cette ouverture, ce travail. Donc c'est une tâche que l'Église a de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Pas des branhamistes, ni des franquistes, mais des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui ressort sans l'ombre d'un doute de Matthieu 18, 18, où les mêmes paroles sont dites au pluriel. En vérité, je vous dis que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc Matthieu 18, 18. Nous voyons donc que la même pleine autorité reçue par l'homme de la première heure pour établir les doctrines obligatoires est reportée sur l'ensemble de l'Église, car elle est chargée de publier les mêmes doctrines. Vous voyez? Voilà pourquoi, parfois, comment on peut faire pour s'identifier dans la parole de Dieu? Comment on fait? Parce que cette tâche, cette chose-là, elle est là. Maintenant, ce n'est pas que Dieu a dit, que l'Esprit a dit, attendez que d'abord il y ait la pluie de la première et la dernière saison, et puis après vous irez. Vous comprenez? Non, c'est une tâche qu'il a même avant, qu'il a déjà donnée avant. C'était même avant, au commencement de la Pentecôte. Donc la première église du Nouveau Testament. Et Jésus a donné cet ordre, cette tâche, voyez? Donc qui reçoit cela? Comment on peut recevoir ça, comprendre ça, voyez? On continue, comme on le voit. Donc, cette pleine autorité reçue par l'homme de la première heure pour établir la doctrine obligatoire est reportée sur l'ensemble de l'Église, car elle est chargée de publier les mêmes doctrines. Comme on le voit clairement dans ce contexte, ceci est valable également lorsqu'il s'agit d'émettre un avis à propos d'une circonstance touchant personnellement un croyant. Au cas où la personne concernée ne prenait pas garde à ce qui avait été arrêté par l'Église, conformément à la parole, elle était classée parmi les personnes incrédules. Donc Matthieu 18, 15, 17. Lisons cela. Voyez l'ouverture. Donc, par Dieu, on pardonne les péchés. Donc, la clé. Comme on l'a lu. Vous recevrez cela, etc. Donc, l'ordre que Dieu a donné. Donc, on va lire Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Et si ton frère pêche contre toi, va reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce... Ça, c'est délié, délié. Ou lié. Ça, c'est lié et délié. Ouvrir ou fermer la porte. Donc, c'est ça. Le sujet, c'est lié ou délié. Donc, comme c'est sur la terre, ce sera au ciel. Comme c'est au ciel, c'est sur la terre. Je vous dis, donc, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord, donc lisons. Donc, c'est ça que le frère Franck a repris. Matthieu 28, 19. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Donc, parmi les frères, c'est important. dans les églises. Donc c'est délier ou lier. C'est à travers la parole, à travers la prédication, à travers la révélation de la parole des Écritures. Et si on délie, les corps sont libérés et toute chose va à sa place. C'est l'harmonie divine. Donc c'est l'enseignement spirituel qui est nécessaire, que ce soit vraiment ancré dans l'Église. Mais ça ne se trouve pas partout. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'en arrive à la conclusion que je ne trouve pas ça. Voilà, ça c'est très important. On continue la lecture. Donc, si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite par mon Père qui est dans les cieux. Parce que deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et on croit à la présence de Dieu. On croit à la promesse divine. Donc c'est une chose sérieuse. Une chose vraie. Donc les nœuds, les liens doivent être déliés. Et tout doit être remis à sa place. Tout doit rentrer en harmonie avec la parole de Dieu. Dieu a fait cela. C'est pour ça qu'il nous a donné cette autorité à l'Église. Donc, d'abord à Pierre et puis à toute l'Église. Est-ce qu'on est conscient de cela? On l'a lu. On a lu. Matthieu 18, 18. Donc, frère Franck écrit, nous devons aussi écrire un mot d'éclaircissement sur Jean 20, 21, 22. C'est là que le Seigneur dit aux apôtres, paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Donc Jean 20, 28 à 22. Ce passage de l'Écriture a aussi été totalement incompris et interprété de manière entièrement non biblique par l'Église romaine. Aucun homme n'a affaire avec le pardon des péchés. C'est Dieu seul qui nous les pardonne. Marc 2, 7. Marc 2, 7. Donc, écoutez bien. Ça, c'est important. Écoutez bien. Ça, c'est vraiment important. Écoutez bien. Nous tous, nous tous. Lors d'une prédication, les hommes reçoivent la certitude par la foi en Jésus-Christ que par l'œuvre de rachat pleinement accomplie au travers de lui, l'agneau de Dieu, Dieu leur a pardonné. Voilà comment ça vient le pardon. Vous y êtes? Le pardon vient à travers la prédication de la parole ointe par le Saint-Esprit. La personne qui se sent touchée, qui reconnaît certaines choses qui est personnelle entre lui et Dieu, personne ne le sait, et il sait que de son cœur quelque chose s'est passé. Alors il a eu vraiment le pardon de ses péchés, mais à travers la parole qui est sortie. Voilà pourquoi nous avons cette possibilité de pardonner d'une certaine manière les péchés, de laisser libre, de laisser sans enchaîner les personnes, sans les tenir liés, mais au contraire, chercher le plus possible de les libérer, de libérer les cœurs. Alléluia. Il était évident qu'aucun homme ne peut se pardonner lui-même ses péchés et il ne peut pas davantage pardonner les péchés d'un autre. Au contraire, les Saintes Écritures disent clairement et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Luc 24, 47. On peut ouvrir encore Luc. Luc 24, 47 dans vos Bibles. Luc 24, 47. Luc 24, 47. À partir du verset 44. Luc 24, 44. Donc Dieu leur ouvert l'esprit. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Donc la personne a le cœur ouvert, il a la possibilité d'entrer. Donc en ce moment, leur cœur s'ouvre. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, ainsi il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés furent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà pourquoi tout ce que nous lions, c'est lié, tout ce que nous délions, c'est délié, sera délié. Donc, c'est comme il est écrit ici, la possibilité de pardonner les péchés. Ça, c'est important. Vous vous souvenez? Donc, j'ai lu ça il y a beaucoup, plusieurs années. Dans une prédication du frère Branham, il y avait une femme et un jeune homme. Pendant que lui prêchait, pendant que lui, frère Branham, prêchait, il y avait. Donc, c'était des jeunes qui avaient des problèmes mentaux, donc ils s'embrassaient dans l'église. Donc ils ne faisaient même pas attention à ce que le Seigneur disait et que le Seigneur était en train de leur parler. Et à un certain moment, il les a regardés. Et ils ont eu peur parce que le regard, c'était un regard de Dieu, à un moment donné. Et je vous dis qu'ils avaient eu peur. Le Seigneur leur a dit. Il a entendu une voix qui lui a dit, tu peux prononcer mort ou vie. C'est une anecdote. Tu peux leur. Il le regardait dans les yeux, mais il a dit, je vous pardonne. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Alléluia, vous voyez? Le pardon. Parce que. Donc, on va le lire un peu plus loin d'ailleurs. Le frère Franck le dit en rapport avec le blasphème causé à l'esprit, etc. Ça signifie qu'il a ouvert la porte afin qu'il puisse être vraiment pardonné. Sinon, c'était le problème pour eux. Donc, il avait cette autorité, il avait cette puissance. Voilà pourquoi je dis que Dieu doit faire grâce de nous aider à comprendre tout ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il a donné à l'Église, comme force, comme foi, comme autorité, vous y êtes? Ça, c'est important. De façon qu'on puisse réaliser et mettre ça en pratique, en acte, en action. On peut dire ainsi dit l'Écriture. Attention, le potentiel que Dieu a donné à son épouse, à l'Église, pour tous ceux qui sont entrés par la porte, à tous ceux qui sont entrés par la révélation, et qui ont compris que cette puissance a été donnée d'ouvrir ou de fermer, de lier ou de délier, de fermer ou d'ouvrir. C'est un potentiel, on ne se rend même pas compte. Seulement dans l'esprit on peut s'en rendre compte. Dans la chair, c'est pas possible. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que Dieu nous fasse grâce. Pour ceux qui écoutent, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui se prépare. Parce qu'elle a été appelée pour cela. Parce qu'à la fin, quand Dieu viendra totalement, quand il viendra avec toute la pluie de la première et la dernière saison, cette pluie tombe, viendra pleinement. Ça va arriver. Ça sera manifeste. Et déjà, ça se manifeste maintenant. Et je sais que ça se manifeste maintenant. Il y a des anecdotes. Bon. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que c'est important. Donc Dieu doit nous faire grâce de réaliser, qu'on réalise la position, notre position. Donc la position de son église, de son épouse. en commençant donc par la maison de Dieu à Jérusalem. On continue la lecture. Et lorsque vous étiez mort dans vos fautes et dans la circoncision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Colossiens 2, 13. Donc nous aussi, à nous aussi, la porte a été ouverte. La clé nous a été donnée. La clé nous a été donnée. À travers l'œuvre accomplie à Golgotha par le sang de Jésus-Christ. Donc cette chose, on l'a reçue, elle est définitive. Définitive. Il n'y a plus moyen de dire qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés, que encore, comment dire, il y a ceci, cela. Non, non. Fortifie-toi dans la foi. Il est écrit, nous fortifions ensemble. Et Dieu prouvera, confirmera ce que nous avons cru. Autrement, comment ça va se passer? Vous comprenez? Alléluia, c'est important. C'est vraiment important. Donc, Frère Franck écrit, que signifie donc réellement cette déclaration faite au pluriel dans Jean 20, 13, à quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis. Reprenons Jean 20, 13. Reprenons Jean 20, 13. Jean 20, 13. Jean 20, dans Jean 20. Donc, si on prend 20-20, il leur dit paix vous soit. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. C'est très profond. C'est pas seulement dans mon âme à moi personnellement, mais c'est aussi dans la communauté, dans la communion les uns envers les autres. C'est important cela. Donc cette chose, elle s'est déjà arrivée, c'est déjà arrivé. Ça ne doit pas arriver au moment où il y aura la pluie. Je le répète cela, parce qu'il y a des frères qui sont encore coincés là-bas. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent être libérés de cela, déjà maintenant. Ils sont vraiment coincés. Ils sont liés. Mais ils ont vraiment reçu une conscience. Est-ce qu'ils ont vraiment la conscience qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu la conscience qu'un passage a été fait de leur vie? Et que si vraiment les péchés ont été remis, avec cet ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus-Christ. Pas de branamisme, pas derrière un homme ou derrière une église. Mon église, ton église, tes brebis, mes brebis, non. Mais envers le bon pasteur Jésus-Christ, celui qui a donné, celui qui est la porte, qui est la clé, qui est la révélation, qui est tout. Parce qu'autrement, je suis comme le pharisien. Tu penses avoir. Juste. Ah, moi je l'ai, mais toi. Mais tu empêches les autres d'avoir. C'est vraiment ça. Donc cette parole dit, à qui vous aurez remis le péché, ils seront remis. On continue. On a ici dans l'écriture, on continue à lire. Donc Frère Franck écrit, à qui donc était-elle adressée et dans quelles circonstances a-t-elle été faite? Indubitablement, cette parole s'adresse aux apôtres après la résurrection de notre Seigneur et cet rapport avec leur envoi dans le ministère. Il s'agit ici du péché commis contre un prédicateur de l'évangile qui a été mandaté par le Seigneur. Alors que notre Seigneur Jésus accomplissait son ministère, beaucoup ont péché contre lui en disant qu'il était Belzébul et en le traitant de toutes sortes de choses. Mais lui répondit, c'est pourquoi, je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Matthieu 12, 31-32. Donc on vient de le lire, mais on le relit. Matthieu 12, 31-32. Matthieu 12, 31-32. Donc il y a tout un contexte ici où Satan ne peut pas chez Satan, etc. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Oh, mon nom, voilà. Il y aura ceci et cela. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a peut-être une petite guérison. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre si c'est l'Esprit ou Dieu qui a fait cela, ou si c'est les hommes. Ou si les hommes. C'est important qu'on comprend, il faut comprendre qu'il faut donner la gloire à celui qui mérite la gloire. C'est Dieu vraiment, c'est le Seigneur, de façon que cette chose soit mise en place. Et que les chrétiennes prennent l'habitude de marcher avec l'Esprit, avec le Seigneur. Il n'a pas de pensée comme si non, c'est la médecine, c'est le médicament. Non. Il faut être sûr. Ici, il le dit. Au verset 31. Donc, Matthieu 12, 31-32. Donc, le frère Franck explique concernant quiconque aura parlé contre cet esprit ne soit pardonné de ce siècle. Donc le frère Franck explique, cela se rapporte donc au péché commis contre les hommes qui, depuis l'effusion de l'esprit à Pentecôte, exercent un ministère mandaté par Dieu en vertu de leur vocation divine. Lorsqu'une personne blasphème contre un serviteur envoyé de Dieu, qui le persécute et le lapide, ce même serviteur peut lui pardonner ce péché. Donc, cela se rapporte au péché commis contre les hommes qui, depuis l'effusion de l'Esprit à Pentecôte, exercent un ministère mandaté par Dieu en vertu de leur vocation divine. Donc, ceci, c'est avant la pluie ou après la pluie, ça? Vous voyez comment j'y reviens tout le temps? C'est important, c'est parce que c'est important. C'est aujourd'hui que je dois être rempli de cet esprit. Dans ce que Dieu a dit de sa parole. De comment il faut marcher, de comment il faut être revêtu, etc. Cette parole, c'est pour moi et pour nous tous. Vous voyez? Donc, cela se rapporte au péché commis contre les hommes qui, depuis l'effusion de l'esprit à Pentecôte, exercent un ministère. Lorsqu'une personne blasphème contre un serviteur envoyé par Dieu, qui le persécute et le lapide, vous voyez? Comme on vient de le dire. Donc, ce qui s'est passé aussi à Jeffersonville, avec Frère Branham. Et au milieu de nous, c'est la même chose, c'est la même chose. Je dois être conscient que c'est Dieu qui parle et que c'est Dieu qui pardonne. Il n'y a pas de problème, c'est fait, fini. Vous voyez? On continue. Jésus lui-même nous en a donné un exemple lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » dans Luc 23, 34. Lorsque Étienne fut lapidé, il s'écria dans sa prière, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Acte 7, 59. Vous voyez? Peut-être on ne se rend pas compte, mais en lisant cela, on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Il est vrai que le Seigneur Jésus sur la croix, il a dit, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est vrai. Mais ici, voilà, Après, il y avait tout un plan derrière cela. Vous comprenez? Il y a tout un plan derrière. Afin que Israël. Et pourtant, Paul était là. Il avait ce témoignage. Donc il était témoin avec Étienne. Donc lui, il était là. Et il était là pendant qu'on le lapidait, même s'il n'a peut-être pas lapidé, mais il était là, témoin, lorsqu'on lapidait Étienne. Donc c'est important qu'ils disent ça, afin que aussi, même Paul soit aussi inclus dedans, afin qu'il soit lui aussi, Paul, inclus dedans, par le Saint-Esprit, qui n'est pas péché contre le Saint-Esprit. Donc Jésus reçoit mon esprit. Seigneur, ne leur répute point ce péché. Mais par contre, si quelqu'un pèche contre l'action du Saint-Esprit, contre les dons de l'Esprit, se manifestant à travers un envoyé de Dieu, en blasphémant contre cela, c'est alors un péché qui ne peut être pardonné, un péché qui est retenu contre lui. Un homme de Dieu ne peut pardonner qu'à celui qui a péché contre lui personnellement, comme cela est exprimé dans le Notre Père pour le pardon. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. Donc le Seigneur a frappé directement. Là aussi, le frère Branham. Il a dit que c'est un homme qui avait fait cela. C'était pas l'Esprit de Christ. Donc si quelqu'un disait du frère Branham, oh, ça vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. Mais on va lire quelque chose, par exemple. Deux rois, deux. Lisons dans Deux rois, chapitre 2. Deux rois, chapitre 2. Vingt-trois. Et il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville, se moquèrent de lui, et lui dirent: Monte, chauve, monte, chauve. Et il se tourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l'Éternel. À ce moment-là, il avait pleinement reçu le manteau d'Élie. Il avait reçu la double portion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous y êtes? Donc, c'était en pleine fonction. Et en fait, les prophètes, les fils des prophètes qui étaient là, les prophètes qui étaient là, ils ont dit que l'esprit d'Élie était sur lui. Donc c'est en pleine fonction. Donc c'est dans la pleine fonction. Donc ici, le frère Franck écrit, si quelqu'un pêche, voilà, c'est fini, il n'y a plus d'espérance pour la personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a eu cette chose de la part d'Élisée, où cette chose a été dite et ça a été faite. Oh, il y en a qui vont dire, oh, ben, c'était des enfants, vous voyez? Il y avait toujours ces sentiments qui sont là. Hein. Toujours justifier la chose qu'on peut dire. Donc il y a toujours un justificatif pour dire. Oh, il a fait volontairement, c'était des enfants. Mais ils se sont moqués de loin de Dieu pendant son action. Frère Branham, je l'ai lu. Vous l'avez lu aussi dans des brochures. Je ne sais plus laquelle. Il dit, en ce moment, il y a l'homme qui peut dire cela. Ok, ça peut être un homme. Mais on va pas rentrer dans des dilemmes. Mais il faut comprendre quand une chose est en pleine fonction. Le manteau était là. Donc il a frappé par exemple le manteau sur le fleuve et le Jourdain s'est ouvert pour le faire passer. Comme la première fois, vous voyez. Donc c'est en pleine action, en plein mouvement. Et c'est ça. Donc c'est cette pensée qui m'est venue. Voilà pourquoi. Et beaucoup d'autres exemples qu'on peut avoir encore parmi les serviteurs de Dieu pendant le chemin, pendant leur pèlerinage, pendant leur ministère, pendant leur action devant le Seigneur. Donc ils ont certainement eu affaire à des personnes qui se moquaient. Non, ne parlons pas des autres. Quand Frère Branham a prêché, et il y a une femme qui lui a répondu, moi je ne veux même pas donner cet évangile à ma vache, l'évangile qu'elle écoutait, qu'elle était en train d'écouter. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et sur son lit de mort, elle voulait rappeler le révérend Branham, mais ce n'est pas possible. La chose était déjà faite. Ce qui est fait est fait, vous voyez? Donc on ne se rend pas compte parfois. Donc je dis cela. Mais ça vaut pour tout le monde. Voilà pourquoi on croit que Dieu, si Dieu parle à travers telle personne ou telle personne, et que vraiment c'est lui qui exhorte, que vraiment c'est l'esprit qui parle et qui agit. Alors des fois on a des difficultés, nous pauvres humains. Nous pauvres et simples que nous sommes, on a des difficultés. Mais à ce temps-là, il y avait un peu plus de crainte, disons, de cette peur, de cette crainte, de dire, oui, mais on est devant Dieu. Comment est-ce que je suis devant Dieu? Parfois, c'est comme si je suis devant lui, comme si. Il y en a même qui sont venus ici, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'avaient pas de respect. Moi, si je vais devant le roi ou devant le frère Franck, donc c'est pas le salon. Mais beaucoup, beaucoup sont venus ici sans vouloir citer des noms, mais. Et on parle du Seigneur, c'est Dieu qui parle ou c'est un homme qui parle? Ils ne se sont même pas posé la question. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que moi je prêche. Attention, hein. Ça vaut pour tout le monde. Même pour les anciens, même pour ceux qui prêchent, même pour les jeunes, pour tout le monde. Il faut faire attention et dire, est-ce que c'est Dieu? Ah non, c'est tel et tel qui parle. Voyons. Donc Dieu donne faire grâce. Et il faut faire attention. Donc on lit cela, et c'est important. De façon que la crainte de Dieu entre en nous. Et que dans l'Église de Jésus-Christ, il arrive des signes, des miracles, que Dieu parle, que l'onction vienne, que les cœurs soient pardonnés, qu'ils se soient tranquilles, que les révélations viennent, que les pensées des cœurs soient révélées. Etc. Et tout ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Donc l'ordre que Jésus a donné à ses serviteurs, ses ministres, à son Église. Ça, c'est important. Donc, par conséquent, le blasphémateur est coupable devant Dieu d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit, péché qui ne peut pas être pardonné et qui l'a retenu. C'est le péché à la mort, conduisant à la séparation avec Dieu. 1 Jean 5, 16. Au demeurant, tout homme est pécheur devant Dieu, et c'est de lui qu'il reçoit le pardon de ses péchés, de ses fautes, car lui seul peut pardonner. C'est lui qui pardonne tes iniquités, psaume 103. Donc, tu as une croix, tu as une clé, et tu peux le faire. Tu peux le faire tranquillement. sang de Jésus-Christ a fait son œuvre. Donc, il y a la joie dans mon cœur. Il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que c'est pas glorieux? Donc, c'était le texte. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons débiteurs. Matthieu 6, 12. Et quand vous ferez vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Marc 11, 25. Chaque fois que quelqu'un pèche contre une autre personne, même si cela arrivait 70 fois, 7 fois, ils doivent se pardonner les uns aux autres. Matthieu 18, 21, 35. Par conséquent, si quelqu'un blasphème contre un véritable serviteur de Dieu, le pardon peut être accordé. Mais si le Saint-Esprit est à l'œuvre au travers de cet homme, et que quelqu'un blasphème contre cette action de l'Esprit, alors cela ne concerne nullement l'homme que Dieu emploie. Car cette action est dirigée directement contre le Saint-Esprit. Vous voyez, avec Élisée, voilà pourquoi j'ai dit que j'ai eu ça à cœur. Donc, Élisée a donné cette sentence aux enfants. Vous savez, maudire quelqu'un, c'est un homme de Dieu. C'est exactement comme fermer la porte. C'est comme fermer la porte. Fini. Fini. Alléluia. Et j'ai à l'esprit, quand le frère Branham, avant de s'en aller, avant de mourir, décéder, il était sur le lit à l'hôpital. Il y avait son épouse qui était là et qui pleurait. Il pouvait lire. Il a dit, lui-même, il a dit, laisse-moi aller, laisse-moi m'en aller. Laisse-moi m'en aller. Donc il y avait encore un amour qui était là, de la femme envers le serviteur de Dieu qui était encore là. Mais il lui a dit, laisse-moi aller. Et pour finir, il l'a laissé aller. Dieu doit nous faire grâce. Il doit nous donner des sentiments spirituels, profonds, profonds. On ne joue pas avec Dieu. La chose est sérieuse et véritable. On pense qu'on a affaire avec l'homme, avec des hommes, avec des choses. Au contraire, c'est sérieux. Dieu nous regarde, Dieu voit. Et la parole de Dieu est véritable. Et ce qu'il a fait pour l'Église, c'est vrai. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est écrit. Voilà. Par conséquent, le blasphémateur est coupable devant Dieu d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Péché qui ne peut être pardonné et qui l'est retenu. C'est le péché à la mort, conduisant à la séparation d'avec Dieu. 1 Jean 5, 16. Au demeurant, tout homme est pécheur devant Dieu, et c'est de lui qu'il reçoit le pardon de ses péchés et de ses fautes, car lui seul peut pardonner. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Psaume 3, 3. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées, et dont les péchés ont été couverts. Romains 4, 7. Amen. Ça, c'est important. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Je m'exprime d'une manière modérée lorsque je dis que la pratique de l'Église catholique romaine est non biblique. Tout au long de la vie de ses fidèles, de leur naissance à leur mort, cette Église leur déclare que leurs péchés sont pardonnés par son intermédiaire. Après leur mort, on communique. Donc, ça, c'est l'Église catholique s'est pris cette autorité qu'ils n'ont jamais reçue. Ils n'ont jamais reçu cette autorité. Après leur mort, on communique solennellement à ceux qui sont restés que malgré tous les sacrements, y compris l'extrême onction, celui qui est décédé se trouve dans le purgatoire. C'est là qu'il doit être purifié de ses péchés, qui, cependant, lui ont été pardonnés tout au long de sa vie par les pratiques de sa religion. Quel paradoxe! Du reste, le purgatoire, comme toutes les doctrines et les dogmes de cette organisation, n'est qu'une pure invention. Le réformateur suisse Ulrich Zwingli disait à cet égard: puisque en fait le purgatoire, c'est ainsi qu'on se plaît à nommer cette expiation illusoire par le feu, ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu, comment se fait-il que nous soyons si stupides de prêter foi à de tels radotages fades et douteux? Nous voyons cependant que les mêmes personnes qui défendent le purgatoire et nous enseignent la manière de l'éteindre se proposent en même temps eux-mêmes comme extincteurs de ce feu. Ils disent: tu dois donner de l'argent afin que le feu se laisse le plus rapidement étouffer. Et cela arrive en particulier lorsque celui qui prend l'argent lit honnêtement la messe, prie et chante les psaumes. Ainsi, ils lisent la messe et ils tendent en même temps la main pour demander de l'argent. Donc l'esprit nicolaïte total. L'esprit nicolaïte totalement. Donc, Frère Franck parle un peu de l'histoire de l'Église catholique. Depuis l'établissement de cette Église universelle, des quantités de choses ont été introduites, enseignées et même proclamées comme dogmes, lesquelles n'ont absolument rien à voir avec le christianisme primitif. Les croyants de ce premier âge ne connaissaient pas davantage les cierges que l'encens et l'eau bénite. Il en est de même pour ce qui concerne la béatification et la canonisation des morts et leur vénération. Dans l'Église primitive, il n'y avait point de sacrifice quotidien de la messe, point d'invocation à la soi-disant mère de Dieu et point de couvent. J'ai devant moi une liste qui sera publiée plus bas de différentes proclamations faites jusqu'à la déclaration de l'infaillibilité du pape en l'an 1870. Cette dernière, malgré une forte opposition jusque dans leur propre rang, a été acceptée. Rien qu'en Allemagne, 79 théologiens étaient opposés à cela et seulement 25, et 25 seulement y étaient favorables. Et en 1950, on édicta le dogme selon lequel Marie se remontait au ciel en son corps et en son âme. Toutes ces choses sont dénuées de tout fondement biblique. Donc, vous vous rendez compte comment le diable a fait? Il y en a qui étaient contre, malgré ça, ils ont accepté. Donc, ce dogme qu'on appelle Assomption de 1950, selon lequel Marie serait montée au ciel en son corps et en son âme. Toutes ces choses sont dénuées de tout fondement biblique. C'est ainsi qu'il est par exemple écrit dans la Bible: « Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Jean 3, 13. Relisons Jean 3, 13. Jean 3, 13, relisons. Jean 3, 13. Ça, c'est une parole importante, une parole clé, très importante. On parle de Nicodème, la nouvelle naissance, dans Jean 3, 13, de la révélation. De la révélation. Si on lit depuis le verset 11... Jean 3, 11. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Voyez comment le Seigneur parle toujours en parabole. Parce qu'il disait des choses qui semblaient incompréhensibles pour des oreilles qui n'étaient pas habituées à écouter des choses spirituelles. C'est important, ça. Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment c'est possible? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment ça se fait que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était Dieu. On a été réconcilié en Christ. On a été réconcilié en Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc il était déjà l'agneau immolé avant la fondation du monde. Fait chair. Et il est remonté aux cieux, intercédant pour nous. Comme avocat, intercesseur pour nous, à la droite de Dieu, le Père. Il est descendu et il était encore à nouveau. Mais il a toujours été là-haut. C'est une révélation. Amen. C'est pourquoi c'est important, ce verset. L'Église catholique, c'est impossible, ils ne peuvent pas voir cette chose-là. On continue. Cette proclamation du pape Pie XII doit donc être classée comme antichrist, parce qu'elle est en flagrante contradiction avec la déclaration de Christ. C'est seulement en 431, au concile d'Éphèse, que Marie a été déclarée mère de Dieu. Après cela, on commença à lui donner différents titres comme Notre-Dame, Reine du ciel, médiatrice, celle qui secourt, celle qui intercède, mère. Donc en italien, intercesseuse, interceditrice. Donc celle qui intercède. Aussi d'autres termes comme mère de toute grâce, mère de l'Église, et aussi celle qui a écrasé le serpent, etc., etc. Beaucoup de ces désignations qui se rapportaient à Christ ont été transférées à Christ, de Christ à Marie. Et c'est la raison pour laquelle elles sont également antichrist. Jésus, lui, est le roi. Il est le médiateur, il est l'intercesseur, et lui seul a écrasé la tête du serpent. Si Marie avait fait tout cela, et qu'elle soit tout cela, qu'est-ce que donc que Christ peut bien avoir fait lui-même? Et finalement, qui est-il? Ce qui peut être retenu des décisions prises par les conciles, ainsi que des déclarations des papes, est exprimé d'une façon frappante par le réformateur Martin Luther. Les paroles qu'il a prononcées à la diète de Worms le 18 avril 1521 sont entrées dans l'histoire. Il dit « La raison pour laquelle je ne crois pas davantage au pape qu'au concile vient du fait qu'ils se sont souvent trompés et se sont emmêlés dans leurs propres contradictions. Si je ne suis pas convaincu par des témoignages écrits et par des arguments bien clairs, je le suis du moins par les témoignages des Écritures citées par moi et qui sont renfermées dans la parole de Dieu. Je ne peux pas me rétracter et ne le veux pas non plus, car agir contre la conscience n'est pas sûr ni salutaire. Que Dieu me vienne en aide. Amen. » L'histoire rend témoignage de la faillibilité des papes. Jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans, il y eut 245 papes. Parmi ceux-là, 24 papes étaient des anti-papes. Et selon la vérité historique qui fut longtemps tenue pour fable, il y eut une papesse. 19 papes ont quitté Rome. 35 ont régné à l'étranger. 8 papes n'ont pas régné plus d'un mois. 40 ont régné un an. 22 jusqu'à 2 ans. 54 jusqu'à 5 ans. 57 jusqu'à 10 ans. 51 jusqu'à 15 ans. 18 jusqu'à 20 ans. Et seulement 10 papes ont régné plus de 20 ans. Des 245 papes, 31 furent déclarés usurpateurs ou hérétiques. Tandis que, parmi les papes légitimes, 64 moururent d'une mort violente. 18 papes furent empoisonnés, 4 furent étranglés, et 13 moururent de diverses manières. Rome, pour mieux dire le Vatican, s'est approprié l'autorité universelle, ce qui n'est en aucun cas légitimé par la parole. Elle n'est qu'une puissance purement mondaine, sous le couvert de la piété. Regardez. Réfléchissez un peu. Combien de millions de personnes sont soumises à cette autorité papale? Combien de millions de personnes? Combien ont été trompées? dans le monde aujourd'hui. Et pour le monde aujourd'hui, ce pape-ci est le meilleur. Mais devant Dieu, c'est le pire que l'Église catholique italienne et mondiale ait eu et pu avoir. Le pire de tous. Il a tué, lui, plus d'enfants que la Gestapo, je ne sais pas. Donc je dis un chiffre comme ça. C'est terrible. C'est comme un communiste né, fait, il est né comme ça. Voyez un peu ce qu'il fait. Il prépare. Donc il est en train de s'identifier pleinement dans la préparation de l'Antichrist. L'Antichrist. Il fait de tout pour se mettre en harmonie, en accord avec les musulmans, avec Gaza, avec etc., etc. Bon, avec tout le reste des musulmans. Et Israël, pour lui, oh, c'est une pierre d'achoppement. Terrible. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est terrible. Les gens le voient comme un messie, comment dire. Donc c'est très grave. La légende selon laquelle Pierre aurait été à Rome et même qu'il aurait exercé dans cette ville le ministère d'évêque durant presque 20 ans est une tentative désespérée de justifier une assertion, certes inventée, mais de la plus haute importance pour cette Église. Voyez, c'est important pour l'Église catholique. Parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé, sous le Vatican, ils ont trouvé aussi le siège où s'asseyait Pierre. Ils ont même démontré la chaise où Pierre. Vous voyez, des choses fondamentales comme ça. Donc pour tenir en place la structure, c'est important pour eux de dire ces choses-là. Ils devaient le dire. Cette chose-là. Les historiens parlent uniquement d'un certain Simon Magus qui a fait une grande impression au Sénat romain par ses trucs magiques. Du reste, les Écritures nous décrivent assez clairement les voyages missionnaires de Paul ainsi que ceux de Pierre, pour qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet. Si Pierre avait réellement entrepris un voyage à Rome, cela aurait été une chose exceptionnelle, faisant même sensation. Et nous en aurions eu le récit. D'après Galates 2,9, Pierre, Jacques et Jean donnèrent la main d'association à Paul et à Barnabas, convenant que Paul et Barnabas agiraient parmi les païens, alors que Pierre, Jacques et Jean s'occuperaient des Juifs. Paul, qui a écrit l'épître aux croyants de Rome, il salue à la fin 27 personnes en citant leur nom, mais celui de Pierre ne s'y trouve aucunement. Pareillement, dans les nombreuses épîtres qu'il écrivit de Rome aux églises et aux particuliers, pas une seule fois le nom de Pierre n'est mentionné. Après un examen plus rigoureux de la parole de Dieu et du développement religieux, il devient clair qu'aucune des doctrines introduites par l'Église romaine ne peut résister à l'épreuve des Saintes Écritures. L'acceptation de l'autorité papale est absolument incompréhensible. Dans l'histoire tout entière de l'Église, il n'est pas mentionné une seule fois qu'un pape aurait reçu une vocation divine. Il est au contraire bien connu que tous les papes sont élus par le collège des cardinaux, le conclave. Amen. Cette fois-ci, on s'arrête ici. Il n'y avait rien de particulier. Que Dieu nous fasse grâce. On sait très bien, on est sorti de cette Égypte, de cette Babylone, qu'est l'Église dénominationnelle de l'Église catholique. Dieu nous a fait grâce. Mais surtout, on va s'arrêter un peu sur ce qu'on a lu. Un peu avant. Comme Dieu a donné à l'Église cette puissance, les clés du royaume, les clés pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, de pouvoir pardonner des péchés de la manière humaine, de la manière divine, etc. Cette chose, je crois qu'on a bien compris. Ce sont des choses merveilleuses, profondes, importantes. Et pourtant, ça a été dit. Et ça a été prêché. Pourquoi il y a de la confusion partout? Que Dieu fasse grâce. Cette clé, c'est important, c'est la clé du royaume. Quand Jean-Baptiste, pour faire entrer le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui qui devait préparer. Donc, je termine par ça. Lui, il avait la clé. Et il a ouvert au bon pasteur. Donc, tous ceux qui ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, ils ont permis au Seigneur Jésus, ils ont reçu la parole, ils ont reçu le Messie, le royaume de Dieu. Vous y êtes? Tous ceux qui n'ont pas accepté le baptême de Jean-Baptiste, ils ont rendu nul le plan de Dieu envers eux. Donc, ils avaient la clé. Comme frère Branham, je le dis devant Dieu, comme frère Franck, pour l'ouverture des Écritures. Donc, la clé pour faire entrer le Seigneur Jésus-Christ en vie. Bibliquement et prophétiquement, c'est comme ça. Parle. Le messager, pour préparer la première venue du Seigneur, c'était cela. C'était ça. Il a ouvert la porte. Et le bon pasteur, et c'est vrai, il faut que Dieu l'appelle d'abord. Et pour le frère Branham, c'est la même chose. Dieu a donné la clé. Une seconde. Pour faire entrer le Messie, l'épouse de Jésus-Christ, dans la voie des croyants, dans le corps du Christ, afin qu'ils le reçoivent pleinement. Vous y êtes? La clé, c'est la parole, c'est Jésus-Christ, c'est le message. Le message va préparer la venue, la seconde venue du Christ, c'est-à-dire maintenant. Donc voici la clé, c'est la clé. C'est pour ça que je dis que beaucoup, que Dieu leur ouvre étroitement, beaucoup n'ont pas encore reçu cette clé. Ils ont une connaissance du message franc, du frère Franck, mais il manque la clé. Que Dieu donne la clé. Amen. Et l'épouse a déjà reçu la clé. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi je dis ça. C'est pas pour faire passer le temps. Donc, on a reçu ce message. Le Seigneur nous a fait grâce pour pouvoir voir encore aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire dans son Église. L'épouse des cinq vierges sages sont déjà prêtes. Elles sont déjà prêtes. Les Écritures le disent. Josué et Caleb. Hénoc. C'est un type de l'Église, de l'épouse qui va être enlevée. Elle est déjà prête. Il est parti avant les autres. Et je vous dis maintenant de tout mon cœur. À Krefeld, j'ai vu un homme de Dieu, vieux, âgé, appelé selon l'ordre de Dieu. Et il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Je disais ça au frère Jean-Michel. Le frère Franck est déjà prêt. Mais lui, il a 90 ans. Bon, il arrive, il s'approche de 90 ans. Mais selon Matthieu 24, 14, selon Luc, etc. Lui, il est prêt. Vous comprenez? Pourquoi? C'est pourquoi l'Église doit être prête déjà maintenant. On ne sait pas quand. Je le dis de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Mais il faut être prêt. On ne doit pas se faire influencer. Donc il y a de telles choses que le diable nous met devant nos yeux. Donc c'est une petite chose. Mais la vie intérieure, c'est toute autre chose. C'est autre chose. Alléluia. Vous y êtes? C'est comme ça. Que Dieu bénisse nos cœurs, qu'il donne la force et qu'il nous donne la juste prise de position pour être. Parce qu'on l'écoute toujours, hein? Je le dis de mon cœur, on l'écoute toujours, ça. On est en train de s'approcher. Et il y a une chose, hein, qui se passe. Bon, vous voyez, on dirait une peste avec ce coronavirus. On dirait que c'était terminé, mais ça reprend. Mais quel est le plan de Dieu là-dessus? Une chose est certaine. Comme on l'a dit avec Franck, il n'y a pas une seule feuille qui tombe. C'est comme Amos qui le dit, sans que Dieu permette. Il n'y a pas un oiseau qui peut tomber si c'est Dieu qui le permette pas. Donc il y a un but. Quel est le but de ça, avec ce coronavirus? Mais ce ne sera plus comme avant, la vie. Fini, attention. Je ne dis pas ça pour répéter, hein. Je le dis parce que je le sens. C'est comme ça. On le voit. On voit partout. Ce ne sera plus comme avant. Tu peux activer, demander maintenant? C'est lui qui ouvre notre esprit. C'est lui qui nous fait comprendre toute chose, toute parole qui va de sa bouche. Merci Seigneur. Merci de nous avoir choisis, d'avoir choisi nos vies. Indignes, incapables, fragiles, faibles, tu as voulu faire cela. À toi toute la gloire. Toi seul, Seigneur. Tu es celui que nous tous ici nous élevons, nous glorifions, sachant que ça ne peut pas venir de l'homme et de toi, du Dieu des esprits, du ciel. Oui, Seigneur. Merci. Merci pour ce qu'on a lu ce soir de ta précieuse parole, comme tu nous indiques toujours plus le chemin pour pouvoir entrer pleinement dans ton royaume. Nous sommes déjà entrés, Seigneur, en Jésus-Christ, comme toi-même te l'as dit. Toi, petit troupeau, il a plu au Père de te donner le royaume. Merci, Seigneur. Merci, parce que ce n'était pas l'affaire d'un homme, mais ça a été toi-même, Seigneur. Continue à nous visiter, à visiter ton Église. Pas seulement ces membres qui sont ici, réunis en ton nom, mais encore tous ceux qui sont éparpillés sur la surface de la terre, qui sont partout. C'est toi qui rassembles les tiens, les sages, les vierges sages ont déjà l'huile avec elles, elles sont prêtes. Viens encore une fois, parle, entretiens-toi avec nous, comme avec les deux disciples d'Emmaüs, ayant déjà nos yeux ouverts, connaissant que c'est toi qui marches avec nous, et qui marche avec nous, et qui parle avec nous. Tu es en train de discuter avec nous, Seigneur. Merci Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, Merci pour les membres du corps de Jésus-Christ. Continue ton œuvre. Viens, Seigneur, viens. On peut dire, raccourcis le temps, viens vite, Seigneur. Que le temps passe vite, Seigneur. Ou toi, tu vas mettre un terme à cela et que tu mettras en application tes promesses et tu nous enlèveras avec toi. Oui, Seigneur, fais grâce. Il y en a encore qui doivent entrer, Seigneur, c'est vrai. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui doivent encore entrer. Notre préoccupation, c'est cela, Seigneur. S'il y en a encore qui doivent entrer, mais tu les connais, tu sais comment faire pour agir et pour les contraindre à venir à l'intérieur de ta bergerie. Merci, Seigneur. Ou toi, Seigneur, tu enseignes. Toi qui es le bon pasteur et qui enseigne tes brebis, fais grâce, Seigneur, pour les enfants de tes enfants, tous ceux que nous avons à cœur, pour les frères, pour les familles, fais grâce. Pour les parents, oui, Seigneur, pour ceux qui doivent encore entrer, nous te prions, Père Céleste, viens, Seigneur, agis vite, Seigneur. Nous sommes de la poussière, nous ne sommes rien, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur, te dépêcher, Seigneur, de venir, parce que nous voyons que le temps est proche. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci, gloire et honneur, remerciement, adoration à ton Saint-Nom. Gloire pour tout ce que tu es en train de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour cet immense amour, pour la prédication de l'Évangile, pour cette puissante parole qui sort et qui transforme nos cœurs. C'est ta parole, Seigneur. C'est à travers ton Saint-Esprit que tu renouvelles nos cœurs. Oui, Père Céleste, tu es Dieu. Tu nous as appelés à être comme toi. Tu nous as donné le pardon, comme nous aussi nous pardonnons. Et tu as pardonné nos péchés. Nous étions vils dans ce monde, mais tu nous as fait grâce. Nous étions dans l'ignorance, mais tu as lavé nos péchés. Que nous puissions vraiment, Seigneur, suivre pas à pas, mot à mot, tout ce que tu nous dis, Seigneur, de façon à te plaire. Non pas aux hommes, mais que dans notre chemin, nous puissions être agréables devant ta sainte face. Fais-nous grâce, Seigneur, pour nos familles aussi, Seigneur. Il y en a encore beaucoup à faire, Seigneur, mais nous aussi, nous avons encore nos défauts. Nous sommes ici pour améliorer notre conduite. Tu nous exhortes. Des fois, tu nous frappes, Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous corriges. Et nous reconnaissons toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui convertis nos cœurs, Seigneur. Fais-le encore ce soir. Et que cette clé, Père Céleste, puisse être tangible dans nos mains, Seigneur. Enseigne-nous comment il faut se comporter, comment parler, comment penser. Que nos pensées soient celles de Jésus-Christ. Bénis-nous et nos familles. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir fait asseoir dans le lieu céleste. C'est pour ça que nous pouvons voir d'en haut toutes choses. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, soit dans nos cœurs. C'est pour ça que nous te prions que tu puisses nous aider afin de pouvoir la vivre pleinement. Nous pouvons continuer sur ce chemin, sachant que le temps ça est abrégé. Nous voulons chercher toujours plus la sanctification et que nous puissions accomplir ta parole, entrer, annoncer ta parole. Donne-nous la force, donne-nous la sagesse. Donne-nous des occasions de témoigner de toi et de nous manifester ta parole. Nous voulons être comme toi tu as été quand tu étais sur terre, saint et juste. Tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Aide-nous. Nous reconnaissons, Seigneur, il est vrai que nous ne devons pas attendre la pluie de l'arrière-saison parce que toi, tu veux que nous vivions déjà maintenant ta parole. Seigneur, comme tu t'es manifesté au temps du frère Branham, ta parole ne change pas. Tu as dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, nous te prions de continuer ton œuvre et que nous puissions vivre par la foi les temps sont difficiles, Seigneur. Ce ne sera plus comme avant, mais aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous conformer à ta parole. Savoir que tout est possible pour toi. Nous prions pour nos familles. Tu connais toutes choses. Tu connais les sentiments de nos cœurs. Tu connais les besoins de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Continue à nous nourrir de ta parole jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est de cela dont nous avons besoin. Pouvoir respecter ta parole. Être de plus en plus à ton image. Merci pour ta guide, ta grâce, ton pardon, ta bénédiction, toutes choses. Te remercions pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, nous voulons te remercier Père Céleste. Parce que comme tu as fait avec Jean, avec les clés, tu as fait aussi pour nous. Nous te remercions pour la révélation de Jésus-Christ. Nous te remercions Seigneur pour nous avoir fait asseoir dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Aide-nous à avoir la foi nécessaire pour mettre en pratique ta parole quotidiennement, de pouvoir accomplir ta parole. Aide-nous à manifester ta vie. Glorifie ton nom dans notre vie. Guide-nous à travers ton esprit, Père. Et si nous nous trompons, Seigneur, que ton esprit vienne nous reprendre. Ramène-nous à l'ordre, Seigneur, parce que nous voulons que ton nom soit sanctifié. Nous voulons avoir un chemin d'obéissance à ta parole. Nous voulons ton approbation, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Nous voulons vraiment que les gens voient qu'il y a une réalité, Seigneur, qui n'est pas de ce monde, mais qui vient de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Que tu puisses toi-même guider nos pas. Prends-nous par la main, Seigneur, comme de petits enfants. Que c'est à toi à nous guider. Il est vrai que souvent tu dois avoir patience, mais nous te prions que cette patience, Seigneur, ne manque jamais. Et nous sommes des hommes avec un cou dur, Seigneur, endurci. Mais fais-nous grâce. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Guide les pensées de notre esprit. Guide les désirs de nos cœurs afin que tout converge vers ta parole, que tout converge à Jésus-Christ, celui qui est le Seigneur et le Sauveur, la clé du royaume. Fais-nous grâce. Et que nous puissions aussi donner cette bénédiction à nos enfants, aux absents. Que nous puissions être prêts pour le jour de l'enlèvement, Père. Ne pas nous préparer seulement, mais être prêts comme des serviteurs fidèles. Fais-nous grâce, Père Céleste. Je te prie, Père, que tu puisses nous aider en cela. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, Seigneur. Dieu puissant. Merci de nous donner la force. Tu connais le nombre, Seigneur, mais fais que nous puissions tous vivre de la manière la mieux possible, comme si on devait être prêt même pour ce soir, Seigneur. Aide-nous à avoir toujours l'épée l'épée levée, la bannière levée, que nous puissions proclamer le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas mort en vain pour nous, Seigneur. Merci pour ce soir, pour ta parole, pour tes bénédictions. Que ton nom Jésus-Christ soit glorifié. Tu es digne de louange et d'honneur. Et surtout, merci. Merci pour la nourriture. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni dans nos familles. Que tu puisses encore ramener ceux qui ne sont pas encore rentrés. Tu vois ce moment de désespoir. Oh, si c'est dur d'être sauvé, où compareront les autres, Seigneur? Mais tu es digne d'être élevé et glorifié. Gloire à toi, nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu Tout-Puissant, gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous. Pace à tutti.